Bonjour à tous. Alors ce matin, je remplace Luc qui pouvait pas être là. Et je vais vous partager on va étudier ensemble un passage que j'ai choisi en réponse à un article que j'ai lu sur Tout pour sa gloire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est très bien. Il y a plein de très bonnes ressources. Et donc, il y avait un article qui disait que le Christ possède toutes les vertus et que nous devons imiter le Christ. C'est ça notre direction, notre objectif dans la vie, en fait, d'être des imitateurs de Christ. Et notre monde présente le Christ souvent d'une façon diminuée. Hein, le petit Jésus, ou alors doux Jésus. Et le Christ n'est pas seulement petit, il n'est pas seulement doux. Et c'est Pascal alors, qui disait, en fait, l'origine de cette réflexion, ça vient d'une réflexion de Pascal, donc le philosophe, hein, qui disait « Je n'admire une vertu chez quelqu'un que si je trouve son opposé. » Donc, à une vertu, sa vertu opposée. Et le Christ est comme ça. Il est doux, mais en même temps, il est fort. En même temps, il est même violent. Et j'utilise ce mot « violent » à dessein, parce que c'est un mot que, normalement, on connote négativement, à raison, hein, la plupart du temps. Mais le Christ manifeste de la violence dans certaines conditions. Et j'utilise ce mot aussi en référence à ce verset qui nous dit « Le royaume », donc ça se trouve dans Matthieu au chapitre 11 et verset 12, « Le royaume se fraye un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent. » Les violents qui s'en emparent. Et parfois, le Christ a été violent. Alors, on se rappelle, hein, de ce passage où il chasse les marchands du temple. Dans le texte de Jean, il nous est dit qu'il prend une corde, il en fait un fouet, et il chasse les marchands de bœufs, de moutons, les changeurs d'argent, il les sort du temple. À d'autres moments, on se rappelle aussi de la façon dont il fustige les pharisiens, il va même jusqu'à les insulter. Race de vipères. La violence, enfin l'insulte est une violence. Et en réfléchissant à ces deux aspects de la façon dont le Christ se présente à nous, eh bien je suis arrivé sur ce passage qu'on va lire ensemble ce matin, qui se trouve dans Marc au chapitre 9, et on va lire les versets 14 jusqu'à 29. Et qui nous présente Jésus à la fois dans sa douceur et dans sa violence, pour reprendre ce terme-là. Donc je vais lire à partir du verset 14. Alors, juste pour donner un mot de contexte, ça se passe juste après la transfiguration, donc où Jésus est parti avec Jacques, Jean et Pierre, et où il est transfiguré devant leurs yeux, où il rencontre Moïse et Élie. Et il redescend. Il redescend de la montagne, un peu comme Moïse est redescendu après avoir reçu la loi, et il arrive dans la vallée, et il trouve cette scène. Donc, lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait, et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. De quoi discutez-vous avec eux ? Leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit : Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout, cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents, puis devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus s'adressa à eux et leur dit : Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Amenez-moi l'enfant. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? Demande Jésus à son père. Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu le peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria : Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais : Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. L'esprit poussa un grand cri et secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient : Il est mort. Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever. Celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison. Ses disciples, qui étaient seuls avec lui, lui demandèrent alors : Pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser cet esprit ? Jésus leur répondit : Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. On va lire aussi la fin du passage similaire qui se trouve dans Matthieu au chapitre 17, et je vais lire seulement les versets 20 et 21, parce que ça éclaire ce passage d'une façon un petit peu différente. Donc c'est la fin qui change. Donc, alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent : Pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser ce démon ? Et Jésus répond : Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne : Déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Dans ce passage, on voit Jésus qui réagit avec violence dans sa réponse. Aux disciples, dans la façon dont il a de les interpeller. Il y a encore une insulte là. Peuple incrédule, jusqu'à quand je vais devoir rester avec vous? Et ce peuple incrédule, et ce qu'on vient de lire, Jésus leur reproche leur manque de foi. Vous n'avez pas réussi à chasser ce démon parce que vous avez manqué de foi. Si vous aviez cru, eh bien, vous auriez été exaucé. Et cette incapacité à vivre leur foi, à se saisir de la promesse de Dieu, alors que les disciples avaient vécu peu de temps avant cet épisode, ils sont partis, Jésus les a envoyés. Et le texte nous dit qu'ils ont vu des choses extraordinaires, ils ont vu des miracles se produire. Et là, en fait, ils n'y arrivent pas. Et la conséquence de ça, c'est que Dieu n'est pas glorifié. Les gens sont venus à eux dans l'espoir qu'ils puissent leur apporter une délivrance de la part de Dieu, et le manque de foi des disciples les en a empêchés. Ils ont été empêchés de servir parce que ils auraient pu délivrer cet enfant, et ce manque de foi les en a empêchés. Et Jésus leur dit : Mais jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous ? Jésus les prépare à son départ. Il les prépare parce que c'est eux qui vont devoir prendre la suite, qui vont devoir annoncer l'évangile, qui vont devoir manifester l'amour de Dieu pour le monde. C'est ça leur mission. Et là, ils échouent. Et Jésus leur dit, mais alors, comment prendrez-vous ma suite? Jusqu'à quand je vais devoir rester avec vous? Cette façon de parler aux disciples probablement a dû les choquer, les remettre en question. Il aurait rentré dedans pour les obliger à réfléchir à leur relation à lui, à leur relation à Dieu, à ce qu'ils comprennent de ses promesses et de sa puissance. Un choc. Une autre violence, c'est dans la façon dont il va parler aux démons. Le texte nous dit qu'il parle avec sévérité. Et il ordonne, sors et ne reviens plus jamais. La conséquence de cette sévérité, c'est que l'enfant est libéré. De la même façon qu'avec les pharisiens, Jésus ne prend pas de gants avec ceux qui sont un obstacle à la foi, qui se placent en obstacle à la foi de ceux qui s'approchent de Dieu. Et il leur dit des paroles qui sont violentes. Aux pharisiens, donc je l'ai dit, race de vipères, vous mettez des fardeaux sur les gens que vous n'êtes pas capables de porter. Hypocrites. Et aux démons qui lient cet enfant, ils ne lui laissent aucune échappatoire. Sors et va-t'en. Dans ce passage, on voit aussi la douceur de Christ. La douceur envers le père de cet enfant. Le père qui lui dit « si tu peux, fais quelque chose ». On entend la détresse. D'accord ? Le texte nous raconte que depuis des années, ce père vit ce calvaire, cette crainte de tous les jours de voir son enfant mourir, la souffrance. Et il a probablement été essayer de trouver des solutions, et il n'a pas trouvé de solution. Et là, il se retrouve face à Jésus, et il lui dit, si tu peux, fais quelque chose. Et Jésus va le reprendre. Il va lui dire, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Cette façon de reprendre le Père, il aurait pu lui parler sévèrement. Tu viens me voir et tu n'as pas la foi. Il aurait pu lui faire des reproches et lui parler aussi sévèrement qu'il a parlé à ses disciples. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il fait. Il lui parle avec douceur. Il aide à faire un pas de plus. Tu as à apprendre que la foi déplace les montagnes, que rien n'est impossible parce que Dieu est tout-puissant. Tu as passé des années à douter, à ne pas trouver de solution, à voir des portes fermées tout autour de toi. Mais moi, je suis le royaume qui s'est approché. Et la foi en moi ouvre toutes les portes. Il prend cet homme par la main pour l'amener plus loin, et on voit d'ailleurs la réponse à cette douceur. Je crois, mais aide-moi. Cet homme c'est beau quand même cette façon de réagir. Je vois que je manque de foi, j'ai besoin que tu m'aides. Je crois, je veux croire. Aide-moi. La douceur pour amener un peu plus loin. il est doux avec cet enfant. On voit l'enfant qui est brisé par la crise qu'il vient de vivre, par ce démon qui l'a fait convulser. Et le texte nous dit, voilà, Jésus, l'enfant est à terre, donc Jésus se penche, le prend par la main et le remet debout. Là aussi, il y a une douceur. Cet enfant, il a besoin d'être réconforté, d'être relevé. Et Jésus va aller à sa rencontre et il va lui donner ce dont il a besoin pour faire un pas de plus. Et là, c'est un réconfort, même un réconfort physique. Quelques versets plus loin, au verset 37, on présente des enfants à Jésus, et le texte nous dit, même au verset 36, « Il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il lui dit, si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. » On voit cette douceur avec les plus petits, avec ceux qui ont besoin d'être serrés dans leurs bras, d'être réconfortés, d'être encouragés. Un enfant n'a pas besoin d'un sermon, il a besoin d'être aimé, et d'une façon très simple, par la douceur et par le contact. Et Jésus se met à sa hauteur. Pour le serrer dans ses bras, il a dû se pencher là aussi. Jésus se met à sa hauteur et l'aide à aller un peu plus loin. Alors, comment est-ce qu'on peut manifester ces qualités de Christ? Comment est-ce qu'on peut être violent et doux de la bonne façon? On a besoin que l'Esprit nous guide pour suivre ce chemin-là. Parce que on a souvent un cœur tortueux. Et la force que manifeste le Christ est qu'il nous demande de manifester dans notre imitation que nous avons de lui. Eh bien, cette force, c'est pas une prise d'autorité sur la création, sur les hommes, ou même sur Dieu. Parce que c'est parfois ce qu'on entend, qu'il faut prier avec autorité, qu'il faut prendre autorité. Mais je vous invite à considérer, alors quand Jésus nous dit si vous dites à cette montagne pousse-toi de là et que vous avez la foi, elle le fera. Je vous invite à considérer le fait que dans toute l'histoire de l'humanité, de la chrétienté, personne n'a jamais déplacé de montagne. Même Jésus n'a pas déplacé de montagne. Donc, quand il nous dit ça, il faut l'entendre de la bonne façon. Et ces montagnes, ce sont souvent, et c'est comme ça que c'est utilisé dans Ésaïe par exemple, ce sont les obstacles qui sont devant nous. Ces obstacles impossibles à déplacer par nos propres forces. Quand Jésus parle avec autorité, il parle à la tempête. Arrête-toi. Mais le seul qui peut parler et que ce qu'il dit arrive, le seul qui fait ça, c'est Dieu. Parce que Dieu dit et la chose arrive. Le Dieu créateur, c'est Dieu. Nous, Nous ne sommes pas les créateurs. Nous, nous sommes ses créatures. Nous n'avons pas à prendre autorité sur la création. C'est Dieu qui a autorité sur la création. Encore moins prendre autorité sur Dieu en lui ordonnant « Fais, agis, délivre !» Notre relation à Dieu, ce n'est pas une relation d'autorité, c'est une relation de soumission. Seigneur, que ta volonté soit faite. Dans ce passage, quand Jésus parle aux démons, il ordonne. Pourtant, quand il parle à ses disciples, et que les disciples disent « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi ?» Il leur dit « Oui, mais ce démon, par la prière. » Jésus, il n'a pas prié, là. Lui, il a ordonné. Mais à ses disciples, il leur dit « Vous priez. » Donc, cette force que Dieu nous demande de manifester, elle est d'abord dans la soumission à Dieu. Donc, faisons attention à ne pas confondre ce que Dieu nous donne et ce qu'il nous demande et ce qui lui appartient. Cette violence et cette force qu'il nous donne, elle se manifeste dans notre soumission à lui. Et pas en nous prenant nous-mêmes pour des dieux. Un autre travers, ce serait de penser que la douceur de Jésus est une faiblesse. Que cette douceur, c'est un renoncement. Et on voit que ce que Jésus accomplit à travers sa douceur manifeste au contraire une grande puissance. Dans ce texte-là, la douceur de Jésus permet au père de l'enfant de s'approcher de Dieu, de découvrir la puissance de la foi. La douceur de Jésus, c'est une puissance de transformation. Ce qu'il fait avec les enfants, en les accueillant et en les présentant comme étant voilà, ce que tu fais à ce plus petit, tu le fais à moi. Cette douceur, elle est quelque chose qui permet d'aller plus loin. Dans le récit de la Passion, on trouve cet épisode où Jésus est giflé par un garde. Ça se trouve dans Jean au chapitre 18 et au verset 22. Pendant qu'il est géré par les gardiens du temple, un des gardes le gifle en disant qu'il a mal répondu. Et Jésus ne lui met pas un coup de poing. Bon. Il lui répond au verset juste d'après. Il lui dit « Si j'ai mal parlé, montre-moi où est le mal, mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu » Jésus ne résiste pas au mal. Vous voyez, il n'appelle pas la colère de Dieu sur cet homme-là. Il ne répond pas par la violence. Malgré tout, il parle. Et il met ce garde en face de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Tu me frappes, mais pour quelle raison? Dans Actes au chapitre 16 et au verset 37, là c'est l'apôtre Paul qui est confronté à la violence romaine, d'accord, à la loi, il est emprisonné, il est battu, Et il a été fouetté. Il s'est pas, il n'a pas fait une émeute pour se défendre. Il a subi le châtiment, mais il va dire comment ils nous ont fait fouetter en public sans jugement, alors que nous sommes citoyens romains, puis ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils voudraient se débarrasser de nous en cachette, hein, puisque c'est ce que les autorités essaient de faire. Il n'en est pas question qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Donc on voit que Paul n'a pas résisté au mal par la violence. Malgré tout, il a su dire et confronter ceux qui ont abusé de leur autorité. Il les confronte en leur disant maintenant, vous devez assumer ce que vous avez fait. Donc, la violence et la douceur. Et qu'est-ce que c'est qui peut nous permettre alors de trouver le bon chemin là-dedans? La violence, c'est une dans la façon dont Jésus la pratique, c'est la capacité à s'opposer. La capacité à s'opposer au mal. La douceur, c'est la capacité à plier, à s'adapter. Et le point commun entre ces deux attitudes, le moteur à chaque fois dans ce que Jésus fait, et je pense que c'est ça qui doit nous conduire, le point commun à tout ça, c'est toujours l'amour qu'il porte aux hommes qui sont en face de lui. Jésus va lutter avec force contre ceux qui font obstacle au royaume. Il va reprendre avec sévérité ceux qui s'engagent avec tiédeur. Il va reprendre avec douceur ceux qui luttent et qui ont besoin d'encouragement et de direction. À chaque fois, la source de son attitude, c'est l'amour qu'il a pour les autres. Et à chaque fois, son objectif, c'est le salut. C'est ça, c'est pour ça qu'il fait les choses et c'est ça qu'il vise, par amour, pour leur salut. Quand on lit le sermon sur la montagne dans Matthieu au chapitre 5, il y a quatre versets, du verset 38 au verset 42, qui sont toujours une remise en question, hein, pour nous, qui nous parle de la façon dont on réagit face au mal. Et donc ces versets nous disent Matthieu 5, 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal, au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Ne résiste pas au mal par le mal. La règle que Jésus nous propose ici, c'est vrai que c'est une règle de douceur. Ne t'oppose pas frontalement à celui qui te demande, parce que la plupart du temps, c'est la douceur qui va te permettre de toucher le cœur de celui qui est en face de toi. La douceur, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Défendez votre foi avec douceur. Et c'est vrai que quand j'examine ma propre vie, dans ma famille, dans mon travail, dans l'église, où j'ai essayé de manifester de l'amour et parfois, je me rends compte que, que mes colères, ma violence ou ma douceur ont été motivées par des mauvaises raisons, parce que mon cœur est tortueux et que si j'ai agi comme je l'ai fait, je l'ai peut-être fait par peur de ne pas être respecté, peur de ne pas être aimé, parfois par paresse, tout simplement, parce que c'est plus facile de laisser faire. Mais le Seigneur nous encourage à le regarder, lui, et à être interpellé par la façon dont lui réussit à manifester à la fois cette douceur et cette violence, toujours par amour, toujours pour faire grandir celui qui est en face de lui, le faire grandir vers le salut, le faire grandir vers la vie. Alors bien sûr, nous sommes tordus, mais c'est pas parce que nous sommes tordus que nous devons renoncer à vivre de la façon dont le Christ nous montre que nous devons vivre, que nous devons renoncer à suivre son exemple, parce que il a réussi à manifester cette perfection dans ses vertus, cette perfection dans sa douceur, dans sa force, et il nous invite à le suivre en comptant sur lui. Alors que cet exemple puisse nous encourager à ne pas choisir la facilité, à aller au bout de ce que le Seigneur nous montre, à manifester sa gloire, à manifester son amour, à la fois en étant capable de résister, en étant capable de nous opposer quand c'est ceux-là dont ceux qui sont en face de nous ont besoin, qui nous rendent capables aussi de plier et d'accompagner ceux qui ont besoin d'être encouragés et portés. Je vous remercie.